Il est 9h à Dungu dans les Hauts-Ouélé et 8h à Bumbu à Kinshasa. C'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
Blaise Chidani Kambala à la présentation. D'abord, le titre de ce journal. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a donné des instructions fermes pour la paie des enseignants dans les brefs délais. Il a ainsi réagi ce samedi au cours d'une réunion avec sa collègue de l'éducation nationale, des syndicalistes et opérateurs de la paie. Une décision saluée par les syndicats des enseignants qui appellent à la reprise des cours la semaine prochaine. Chaque 4 janvier, la République démocratique du Congo commémore la journée des martyrs de l'indépendance en souvenir des événements du 4 janvier 1959. Ce jour-là, en pleine période de colonisation belge, des émeutes éclatent à Kinshasa, alors appelée Léopoldville. Pour de nombreux analystes, le 4 janvier 1959 marque le point de départ des revendications congolaises qui mèneront à l'indépendance du pays, proclamée le 30 juin 1960. Près d'un million de cas de paludisme avec 1274 décès ont été notifiés dans la province du Congo central l'année 2025 qui vient de s'achever. Ces chiffres placent le Congo central parmi les provinces à forte endémicité palustre. Pour en parler, nous recevons le docteur Bonheur Tshitekou, chef de division provinciale de la santé du Congo central. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bon dimanche à tous. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a donné des instructions fermes pour la paie des enseignants dans les brefs délais. Jean-Pierre Liao a ainsi réagi ce samedi au cours d'une réunion avec sa collègue de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, des syndicalistes et opérateurs de la paie. Une décision saluée par le syndicat des enseignants qui appelle à la reprise des cours la semaine prochaine. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
À l'issue de cette rencontre de plus de 3 heures, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu que les opérateurs des pays remplissent leurs devoirs en appuyant non seulement les arriérés des salaires, mais également les primes des enseignants. Ils ont aussi décidé que la question des frais de convoyage et bancaires soit réglée entre opérateurs des pays et gouvernement lors d'une réunion spécifique prévue dans les prochains jours. L'ordonnateur délégué du gouvernement assure que toute l'enveloppe salariale du dernier trimestre 2025 a été décaissés. Il réitère ainsi la volonté du gouvernement congolais de délocaliser certains effectifs d'agents et fonctionnaires de l'État afin de faciliter l'opération des pays. Bienvenue Matenda Kibangala.
Avec ces opérateurs, on pourra penser à ce qu'on appelle la délocalisation des effectifs pour ceux-là qui sont trop proches des enseignants pour que la paix se passe normalement.
Pour sa part, le président et porte-parole de l'intersyndicale du secteur de l'éducation nationale a salué la volonté du gouvernement de trouver des solutions idoines à cette question des pays. Il encourage cependant les enseignants à reprendre le chemin de l'école en attendant la poursuite des négociations pour ne pas pénaliser les enfants.
C'est 6 janvier que les enseignants aillent dans des écoles pour reprendre les cours et ils seront payés. Nous sommes là pour eux.
Sur les 18 opérateurs des pays qui collaborent avec les gouvernements, celles Afriland, Bank et IFOD connaissent ces dernières années des difficultés de remplir leurs obligations.
Chaque 4 janvier, la République démocratique du Congo commémore la journée des martyrs de l'indépendance en souvenir des événements du 4 janvier 1959. Ce jour-là, en pleine période de colonisation belge, des émeutes éclatent à Kinshasa, alors appelée Léopoldville. Elles résultent de la coïncidence de deux faits. L'interdiction par l'administration coloniale des activités d'un parti politique et la colère des supporters d'une équipe de football après une défaite. Selon les historiens, ces troubles ont causé plusieurs dizaines de morts ainsi que d'importants dégâts matériels. Pour de nombreux analystes, le 4 janvier 1959 marque le point de départ des revendications congolaises qui mèneront à l'indépendance du pays proclamée le 30 juin 1960. Rappel des faits avec
ce jour-là, le parti Abaco dirigé par Joseph Kasavubu, futur président de la RDC à l'indépendance, avait prévu un meeting sur la place Imka à Kinshasa. L'objectif était de ne pas se laisser distancer en popularité par le MNC de Patrice Lumumba qui avait organisé une semaine plus tôt un rassemblement très suivi. Face aux mises en garde des autorités coloniales et aux tensions déjà vives autour des revendications d'émancipation, Kassavubu et ses partisans décident finalement d'annuler le meeting afin d'éviter d'être tenus responsables d'éventuels débordements. Mais plusieurs milliers de personnes déjà présentes refusent cette annulation. La foule s'énerve, saccage et s'en prend aux colons. La police intervient et réprime violemment les incidents. La situation s'aggrave avec l'arrivée dans le même périmètre des milliers de spectateurs sortant d'un match de football. La confusion et la répression s'intensifient. Les chiffres exacts de ces événements ne seront jamais établis, mais les estimations évoquent au moins une centaine de morts. À partir de ce jour, les revendications congolaises ne cesseront plus jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960.
Les omettes du 4 janvier 1959 se prolongent pendant deux jours. À leur suite, Kassavubu est emprisonné puis libéré. Très préoccupé par la tournure que prennent ces événements, Charles Van Emmerich, ministre des colonies du Congo et du Rwanda au Burundi, fait un voyage officiel au Congo pour étudier les causes de ces émeutes. Le 13 janvier 1959, au Parlement belge, il prononce un discours dans lequel la Belgique commençait déjà à se préparer à accorder l'indépendance au Congo. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Le peuple congolais fera la démonstration de sa sagesse et de sa maturité en entreprenant avec nous l'édification des structures nouvelles et en assumant avec conscience les graves responsabilités de son avenir. Tous ceux qui, dans l'administration territoriale et les autres organes de l'État, dans les missions et les églises, dans les entreprises, grandes et petites, ont accompli jusqu'à présent leurs tâches avec tant de zèle et de compétence, puiseront, dans la grandeur des perspectives ainsi précisées, les ressources d'intelligence et de cœur qui raviveront leur dévouement au service du Congo et de la Belgique. La Belgique prend vis-à-vis des populations congolaises un engagement solennel. Ainsi doit se renforcer l'esprit de fraternité et de collaboration confiante qui permettra à deux peuples d'associer en toute liberté leur destin et de s'appuyer l'un sur l'autre dans l'accomplissement de leur vocation propre.
Dans le même registre, à Kisantu, au Congo central, dans le territoire de Madimba, une messe pour la paix et le développement du peuple a été célébrée ce samedi 3 janvier. Activité organisée en marge de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance qui, selon les organisateurs, était en majorité originaire de l'ancien district de la Lukaya dans ce territoire de Madimba. La messe s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame des Sept Douleurs en présence du gouverneur du Congo central et de plusieurs hautes personnalités du Congo central. Nana Purush Mambu, reportage.
Toutes les couches de la population du Congo central ont pris part à cette célébration eucharistique dédiée aux martyrs de l'indépendance sous les thèmes « En toi le Congo central, notre mère, toutes nos sources, par ta lumière, nous verrons la lumière ». Dans son homélie, tirée du livre de Genèse chapitre 1 verset 2, l'officiant du jour Monseigneur Crispin Kimbeni Kikanda, évêque du diocèse de Kisantu, a axé son message sur la gestion solidaire et responsable des biens de la nature, notamment la vie. Pour lui, en donnant leur vie pour une cause noble, les martyrs de l'indépendance ont donné sens à leur vie.
C'est le souffle de Dieu en l'homme qui lui donne sa dignité, rien d'autre.
L'évêque Crispin Kimbeni a aussi rappelé dans son message les rôles historiques et déterminants du Congo central dans le développement de la République démocratique du Congo. Cette messe revêt d'une importance particulière car elle vise non seulement à honorer la mémoire des martyrs de l'indépendance, mais aussi à renforcer l'unité, la cohésion sociale et la culture de la paix dans un contexte national marqué par de nombreux défis. Elle se veut également un rappel à l'engagement citoyen, à la responsabilité collective et au développement intégral de la province. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Au terme d'une ordonnance présidentielle lue le mercredi 31 décembre 2025 à la télévision publique, la République démocratique du Congo institue un nouvel ordre national dénommé Ordre national du Léopard. Par cette ordonnance, le président Félix-Antoine Tshisekedi promulgue la loi portant création de cet ordre opté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais qui peut être admis à cet ordre et à quelles conditions ? La réponse dans ces condensés proposés par Alain Irung qui a lu cette loi.
Selon le document officiel, l'Ordre national du Léopard est destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation. Les grades sont conférés par ordonnance du président de la République après avis de la chancellerie des ordres nationaux, principalement aux citoyens congolais. À titre exceptionnel, ils peuvent également être attribués à des étrangers. Pour être admis, il faut avoir exercé pendant au moins 20 ans des fonctions civiles ou militaires assorties des mérites reconnus. Toutefois, le président de la République peut, par dérogation, admettre toute personne s'étant distinguée par un service extraordinaire rendu à la nation, un acte de dévouement exceptionnel ou une action d'éclat. Dans tous les cas, le grade d'admission est celui de chancelier. La loi prévoit également la réhabilitation des personnalités admises ou promues par l'ordonnance loi numéro 66/329 du 24 mai 1966, prise par le président Mobutu Sese Seko qui avait institué le premier ordre national du Léopard. Par ailleurs, les personnes déjà admises dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba conservent leur grade équivalent dans le cadre de la nouvelle loi.
Province du Haut-Katanga, plusieurs mouvements citoyens ont organisé ce vendredi une marche pacifique dans la cité de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Les manifestants ont protesté contre la recrudescence de la criminalité et exigent que la justice soit rendue après le meurtre d'un défenseur judiciaire et d'autres personnes. Ils appellent les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces pour lutter contre la criminalité à Kipushi. Le point avec
La marche a été encadrée par les forces de l'ordre. Les manifestants ont traversé les grandes artères de Kipushi sans incident jusqu'au bureau du territoire. Sur place, ils ont remis leur mémorandum aux autorités. Ils réclament entre autres l'ouverture immédiate d'une enquête sur le meurtre du défenseur judiciaire. Face à l'ampleur de la situation, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, a effectué une descente à Kipushi. Il a déclaré, je cite, « Le gouvernement provincial ne tolérera pas que l'insécurité s'installe ici. Les auteurs seront retrouvés et traduits en justice. » Fin des citations. Signalons que dans la nuit du 30 au 31 décembre, plus de 3 personnes ont été abattues dans la cité de Kipushi, rapporte des sources locales. Parmi les victimes, il y a Maître Georges Fouamba. Selon des témoins, l'attaque s'est produite à proximité d'un bar au quartier Kamarenge. Maître Fouamba quittait le domicile avec son épouse. Des hommes armés non autrement identifiés les ont surpris et ont ouvert les feux, tuant sous les coups les défenseurs judiciaires. Son épouse, grièvement blessée, est internée dans un centre hospitalier. Lubumbashi, Polemun Radio Okapi.
Situation similaire au Maniema où la dynamique des jeunes pour le développement du territoire de Lubutu hausse les tons pour dénoncer les actes d'atrocité dont sont victimes les habitants de ces territoires. Le dernier cas en date est celui intervenu samedi matin au village Bambondjela dans le secteur de Bokote où un civil a été tué par un élément de la police à la suite d'une incompréhension. Fait confirmé par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawamo Selemani, qui fait savoir que cet élément incontrôlé est déjà aux arrêts pour répondre de ses actes. On écoute à ce sujet Murphy Kitumaini, coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour le développement du Lubutu. Il plaide pour l'implication des autorités compétentes et du président de la République afin que l'autorité de l'État soit rétablie dans cette partie du Nord Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté les meurtres à répétition dont est victime la population civile du territoire de Lubutu. Le dernier cas en date survenu ce matin à Obondjel, où un civil a été froidement abattu par des éléments présumés de FARDC, vient une fois de plus de plonger la communauté locale dans la douleur, la peur et l'indignation. Ces actes graves, inacceptables et contraires à la mission régalienne de protection des citoyens constituent une violation flagrante des droits humains et de l'état de droit. La population de Lubutu ne peut plus continuer à vivre sous la terreur de ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Nous interpellons avec insistance les autorités provinciales et nationales, ainsi que le service de sécurité et de défense, ainsi que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les auteurs soient identifiés, traduits en justice et sévèrement sanctionnés conformément à la loi. L'impunité ne peut plus être tolérée. Nous lançons également un appel solennel au chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, afin qu'il s'implique personnellement pour mettre fin à cette spirale de violence et restaurer l'autorité de l'État à Lubutu et assurer la protection protection effective des populations civiles. La vie humaine est sacrée. Lubutu a droit à la paix et à la sécurité aussi, à la justice.
À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le mois de janvier débute presque toujours dans un contexte économique difficile pour de nombreux ménages. Les fortes dépenses liées aux fêtes de fin d'année continuent de peser lourdement sur les familles. Jean-Claude Lokidi s'est rendu samedi au marché central de cette ville de près de 2 millions d'habitants. Voici son reportage.
Au marché central de Bunia, l'engouement habituel des marchands et des clients n'est pas au rendez-vous. Les étals sont bien garnis, mais les acheteurs se font rares. Une situation qui impacte négativement les revenus des opérateurs économiques qui ne cachent pas leur inquiétude.
Il y a baisse en termes de recettes. On a un montant, par exemple, qu'on réalise journalièrement et qu'on n'arrive pas à les réaliser. Déjà un impact, puisqu'on doit payer les taxes, c'est l'année qui commence.
Cette rareté de clients affecte également le fonctionnement du marché. Les recettes ont nettement chuté, reconnaît l'administrateur du marché central, Willy Bahati.
Depuis le premier, nous avons constaté une baisse là de recettes parce que ce sont nos assujettis qui sont là encore au niveau du village, sont en train de fêter. C'est un peu difficile pour nous de maximiser parce qu'ils ne sont pas là.
Pour de nombreux parents rencontrés, le mois de janvier est traditionnellement long. Ils doivent désormais faire face à d'autres charges.
La fête nous a beaucoup coûté et maintenant il faut beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui nous attendent derrière nous.
Certaines personnes interrogées appellent à une gestion prudente. Elles exhortent ainsi les parents à éviter les nouveaux endettements qui ne font qu'aggraver davantage leur situation économique déjà précaire et pour le reste de l'année. Bunia, Jean-Claude Loki, il est Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les principaux syndicats de la radiodiffusion télévision sénégalaise RDS dénoncent ce samedi 3 janvier une dérive managériale au sein de l'entreprise, accusant la direction des népotismes, des conflits d'intérêts, des décisions autoritaires et d'une dégradation des conditions de travail des salariés. Ils interpellent directement les autorités sénégalaises. Au Burkina Faso, les autorités sont en lutte contre la circulation anarchique des triporteurs, communément appelés tricycles, dans le pays. Au dernier jour de l'année 2025, le 29 et 30 décembre, une opération de contrôle a été menée par la Direction générale de la mobilité urbaine.
L'invité.
Près d'un million de cas de paludisme avec 1274 décès ont été notifiés dans la province du Congo central l'année 2025 qui vient de s'achever. Ces chiffres placent le Congo central parmi les provinces à forte endémicité palustre. En dehors du paludisme, plusieurs autres pathologies ont frappé la province. Nous en parlons avec le docteur Bonheur Tshitekou, chef des divisions provinciales de la santé du Congo central. Il est notre invité. Il s'entretient avec Nana Pluriche Mambo.
Docteur Bonheur Tshitekou, bonjour.
Oui, madame, bonjour.
L'année 2025 a déjà tiré ses rideaux. Nous aimerions avoir un état des lieux concernant la situation épidémiologique dans la province du Congo central. Par là, docteur, je voulais que vous puissiez nous parler de l'évolution des principales maladies telles que le paludisme, la rougeole, le mpox et le choléra au cours de l'année 2025.
Merci beaucoup pour votre préoccupation. Alors, pour toutes les pathologies que la province a enregistrées au cours de l'année 2025, le paludisme ou la malaria vient en tête, que ce soit du point de vue morbidité ou du point de vue mortalité. Nous avons enregistré près de 1 million de cas de paludisme pour toutes les pathologies, soit 43,7%. Dont 1274 décès, soit 12%. Alors, la province reste parmi les provinces à forte endémicité palustre. S'agissant des maladies à potentiel épidémique, la province a été frappée par des épidémies suivantes, notamment l'épidémie de poliovirus, où nous avons enregistré les cas de poliovirus circulant dans trois zones de santé avec zéro décès. C'est notamment dans les les hommes de santé de Mwanda, Bomabungu, d'où les cas provenaient de Sekebanza, et aussi la zone de santé de Kwilongong. Deuxièmement, il y a l'épidémie de Mpox qui a frappé la province depuis l'année 2024. Donc, sur les 31 zones de santé, il y a 28 qui sont frappées par la Mpox. Il faut aussi parler de l'épidémie de choléra qui a frappé également la province où nous avons notifié 199 cas, dont 10 décès. Donc, le taux de létalité ici est autour de 5%. Alors, mais il faut aussi signaler qu'il y a la rougeole qui est en train de refaire surface. Au cours de l'année, nous avons notifié 437 cas, dont 5 décès.
Selon vous, quel facteur explique cette situation sanitaire?
Il faut dire ici que le socle, c'est la vaccination des routines, mais malheureusement, nous notons encore beaucoup de souches, de poches de résistance, beaucoup plus avec les églises des Noirs, et aussi des populations à accès difficile, comme des populations riveraines, ceux qui vivent sur des îlots. Ce qui fait que nous avons encore des enfants qui sont en conflit avec les calendriers vaccinaux. Alors, le pays a mis en place ou a introduit la deuxième dose de VAR, ce qui fait qu'aujourd'hui, un enfant congolais doit recevoir deux doses des vaccins anti-rougeolais, notamment le VAR1 qui se donne à 9 mois et le VAR2 qui se donne à 15 mois. Malheureusement, la deuxième dose est plus oubliée par les parents.
Et à ces jours, quelles sont les stratégies ou des mesures mises en place pour faire face à ces maladies?
Alors, il y a déjà des vaccins qui sont mis en place et ce qui fait qu'avec plus de sensibilisation, les parents sauront qu'il y a des vaccins qui s'administrent aussi à l'âge de 15 mois, dont les vaccins contre la rougeole, les vaccins contre la malaria, les VAP, les vaccins contre la rougeole, les VAR, et aussi nous avons parlé de la chimioprévention par paludisme pérenne où la SP est administrée aussi chez les enfants à l'âge de 15 ans, donc ce qui demande plus de sensibilisation.
Enfin, docteur, quel conseil adressez-vous aux habitants du Congo central afin de mieux se protéger et prévenir ces pathologies?
La première des choses, c'est d'assainir les milieux. Là où nous vivons, nous devons entretenir, nous devons assainir les milieux pour éviter qu'il y ait des moustiques qui puissent nous donner plus de maladies. Nous devons respecter les mesures d'hygiène. Donc, on doit laver les mains à l'eau et au savon régulièrement. Bien cuire aussi les aliments et dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée. Sans jamais oublier qu'il y a des maladies qui ne peuvent être évitées que par la vaccination. Donc, ces maladies prévention vaccinale, nous insistons là-dessus, nous demandons aux parents d'amener les enfants au centre de santé à chaque fois qu'il y a des séances de vaccination qui sont organisées. Aujourd'hui, l'enfant doit bénéficier le vaccin déjà à la naissance, quand il est à la maternité. Il y a des vaccins qui sont donnés jusqu'à l'âge de 15 mois.
Docteur Bonheur Tshitekou, je vous remercie.
Et je vous remercie.
C'était notre invité, le docteur Bonheur Tshitekou, qui s'entretenait avec Nana Pluriche Mambou. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui a connu la coordination et la supervision éditoriale du Jude Mystère, Bilandan Koumar, et la mise en onde était assurée de main de maître par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.